Je suis au Festival du film d'histoire de Pessac, dans le foyer où il y a beaucoup de brouhaha parce qu'il y a beaucoup de séances qui commencent, avec Emmanuel Amara. Bonjour.
Bonjour.
Amara de España.
Si.
Voilà.
Najara.
Ah. Et les grands-parents sont venus à l'époque, ils ont fui.
Il y a très longtemps, non, ils ont fui l'Inquisition.
Non, c'était avant.
C'était il y a très longtemps. Mais ils se sont réfugiés à Bordeaux, Bordeaux. Dans cette
région. Il y a beaucoup de descendants.
Une partie est partie vers le Portugal et vers le Brésil, et l'autre est
restée en Aquitaine.
Vers la France, oui, en Aquitaine, exactement.
On se retrouve là dans l'occasion de ce festival, dont l'intitulé c'est Une drôle de paix, donc c'était plutôt la période entre les deux guerres. Sauf que nous, vous vous entraînez vers une autre guerre, plus sociologique et politique, c'était mai 68, avec vos documentaires réalisés en binôme.
Avec Patrice Duhamel.
Et alors qu'on voit Alain Duhamel dans le film, souvent.
Et oui, parce que son frère est quand même un observateur, un fin analyste de la vie politique française depuis très longtemps. Donc les deux frères étaient au générique. Hein.
Et alors, à propos de ce film consacré donc à mai 68, aux prémices, puis après tout le déroulement, avec des temps vraiment clés, phares. On pense justement aux accords qui n'ont jamais été signés de Grenelle. On pense à la fuite du général de Gaulle à Baden-Baden. Oui, aussi. On voit beaucoup Cohn-Bendit, qu'on avait vu l'année passée dans le film de Romain Goupil, justement, où il se disait quel est le bilan, l'héritage 50 ans après. Aussi, il parcourait toute la France, je pense que vous l'avez vu.
Oui, bien sûr. C'est la même production qui a produit le film.
Voilà, parce que je trouvais qu'il y avait des similitudes. Et je me suis demandé, dans le contexte actuel, avec ce qui se passe en France, mais même dans d'autres pays en Europe, quelle était la résonance et l'implication dans la jeunesse de ce projet ?
Alors, en fait, tout est parti d'un anniversaire, tout à fait bêtement, mais un anniversaire d'une date un peu cruciale pour la France, mais comme pour d'autres pays aussi. Il y a eu beaucoup de mouvements aux États-Unis, au Mexique, en Europe. Ce qui est intéressant avec 68, avec la France, c'est que... Enfin, on le voit dans le film, ça tout part de malentendus. Après, alors que tout va bien, enfin, c'est ce qu'on dit. Effectivement, l'écume des choses, il n'y a rien à signaler en apparence. C'est le plein emploi en France, l'économie se porte bien. Mais il y a un malaise, en fait. Il y a un malaise profond. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un malaise profond de la jeunesse. J'ai commencé à faire une allusion aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un malaise encore. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a des réponses qui ne sont pas apportées. Il y a un discours politique qui est complètement décalé par rapport à peut-être une réalité.
Et les fossés qui se creusent.
Il y a des fossés qui sont creusés, comme il y avait un fossé en 68. Là, pour le coup, c'était entre la jeunesse qui aspirait à autre chose que cette société figée, ultra-conservatrice, et aujourd'hui, une société peut-être figée, qui se réveille sur la question de l'égalité ou de l'inégalité, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que sous-jacent à 68, enfin c'est même le cœur du sujet, c'est la révolte en fait. Ce qui est intéressant, c'est la révolte et la réponse politique à cette révolte. 68, on voit l'incompréhension, le refus de voir en fait ce qui est en train d'animer, même s'il y a des efforts qui sont faits, il y a toujours des efforts qui sont faits. Évidemment, on les fait parce que ça bouscule, on les fait aussi parce que peut-être qu'on a envie aussi de, tout à fait honnêtement, d'accompagner ce mouvement, en tout cas d'y répondre. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il y a un début de révolte, alors je ne sais pas du tout où ça ira, mais il y a une révolte. Il y a une révolte qui est vraiment spontanée. Il n'y a pas de leader. En 68, il n'y avait pas de leader, même s'il y avait des porte-voix, comme il y en a encore aujourd'hui. Et il y a cette non-réponse politique. Ou en tout cas, cette incompréhension politique. Ou alors, cette façon de répondre complètement inadéquate. Donc, les deux situations sont à la fois...
Il y a une résonance.
Oui, voilà. Je trouve qu'il y a une résonance. Alors, je ne sais pas du tout si la deuxième résonance aboutira. Mais en tout cas, c'est vraiment une révolte.
Alors, votre film commence... Bon, on voit les présentations, la galerie des intervenants. Ils sont nombreux. Que ce soit politique, que ce soit journaliste, bien sûr les militants, les étudiants de l'époque. Et puis on voit que ça part à Nanterre, à l'université. Et puis quand ils vont fermer les portes de l'université de Nanterre, un petit mouvement, ils ne sont pas si nombreux, mais à chaque fois c'est disproportionné hein, quand c'est relaté par les officiels. Ils ont l'impression qu'ils ont, ils sont peut-être plusieurs centaines, ils sont 50. Enfin, chaque fois, il y a des disproportions assez éloquentes. Et surtout, il y a souvent une réponse qui est par la force de l'ordre. Que ce soit d'abord la police, après les militaires. C'est assez militarisé. Hein,
oui, alors il faut savoir aussi qu'à l'époque, on sort de la guerre d'Algérie. Hein. On n'a pas trop l'habitude... Alors, on sort de la Seconde Guerre mondiale, on sort de la guerre d'Algérie.
Indochine aussi.
Et l'Indochine, mais on n'a pas, on sait pas, on, voilà, il n'y a pas eu de mouvement, et il y a eu des grèves, hein, mais elles ont souvent soit été écrasées, soit on les a laissées pourrir. Il n'y a, jamais eu d'abord une révolte de cette ampleur, finalement, et je pense que la police, sauf cet homme très intelligent qui a été le préfet de Paris, qui lui, précisément, a tout compris, en fait. Hein. Mais sinon, dans la gestion quotidienne, les forces de l'ordre ne savent pas gérer ça, en fait. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a de la violence, parce que c'est la violence légitime, hein, c'est la violence de la République. Hein, et quand elle se manifeste, c'est la violence. Hein, c'est-à-dire que...
Il y a quand même en prémisse le mécontentement qui est manifesté.
Bien sûr.
Et souvent, il n'est pas entendu. Donc forcément...
Alors, oui, mais comme mai 68, le dérapage, la violence, elle n'est pas étudiante, en fait. Hein. Il y a un dérapage parce qu'il y a une mauvaise gestion de la part des forces de l'ordre de ce mouvement. Mauvaise gestion politique, mauvaise gestion policière.
Alors, pour revenir aux intervenants, peut-être vous pouvez nous dire comment votre choix s'est porté. Est-ce que c'était ceux qui étaient encore disponibles? Qui a aussi toute leur tête, parce qu'il y a des gens qui sont encore là mais qui ne peuvent plus peut-être s'exprimer. Comment avez-vous porté vos choix?
Alors l'idée en fait du film, c'est vraiment de raconter les coulisses, alors vraiment au plus proche. Alors c'était j'allais dire presque plus facile avec Cohen Bendit, puisqu'il est toujours là, et puis certains de ses camarades de l'époque comme Romain Goupil et puis Jesmar par exemple. Côté politique, effectivement, la classe politique était déjà plus âgée à l'époque, elle n'était plus étudiante, donc il y en a pas mal qui ont disparu. Mais donc voilà, donc on a concentré en fait nos recherches sur ceux qui étaient encore là, ceux qui étaient au plus près de ces événements.
Les descendants.
Et quelques descendants. Mais oui, mais par exemple Yves de Gaulle, c'est chouette parce qu'il est étudiant à l'époque, hein, donc c'est le petit-fils du général de Gaulle, et en même temps, mais ça c'est, il le raconte bien, enfin dans le film je trouve, il est tiraillé en fait, hein. Donc bon, lui c'était le candidat parfait, et après effectivement le fils Pompidou, mais qui était lui aussi déjà assez suffisamment âgé à l'époque en tout cas pour être conscient de ce qui se passait, et puis la fille du ministre de l'Intérieur, voilà, qui était assez proche de son père aussi, donc, et qui a écrit un livre de mémoire sur son père, donc tous, et en plus est historienne, donc voilà, il y avait une certaine légitimité tous à raconter ça en fait. Donc voilà, on a vraiment essayé de trouver ceux qui étaient là et ceux qui pouvaient nous raconter, en tout cas de l'intérieur, ce qui s'était passé.
Alors, avec le montage, forcément, il y a un fil conducteur, c'est très fluide. On imagine qu'en amont, vous avez adapté vos questions en fonction des interlocuteurs, en fonction de ce qu'ils avaient joué comme rôle, en fonction peut-être encore de l'actualité de certains.
Alors on a écrit un dossier, hein, comme on fait chaque fois qu'on veut vendre un documentaire, et on s'est plutôt bien tenu en fait à ce qu'on avait écrit et décrit pour la chaîne, et après c'est la magie ou la non-magie, mais là bon, enfin, de mon point de vue ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on arrive à avec ce qu'on a posé comme question évidemment, mais bon, comme on avait les événements qui ponctuaient tout ça, on a trouvé facilement à bien rebondir, à bien expliquer chaque séquence, chaque histoire, chaque thème, et puis après l'idée c'était juste de donner un peu de rythme en fait à tout ça, parce que voilà, c'est un mois un peu haletant, donc il fallait que ce soit aussi, ça c'était un peu parti pris, que ce soit haletant aussi pour le récit quoi.
Alors Emmanuel Marat, bien que ce soit haletant, il y a quand même des temps qui sont vraiment mis sous lumière. Je pense par exemple aux accords de Grenelle dont on saura qu'ils n'ont pas été signés. Je pense à Charletti, ou je pense encore à la mobilisation vraiment incroyable des journalistes.
On raconte toutes les...
Géricault.
Oui, voilà, en fait on essaye de replanter un peu le décor vraiment de l'époque en fait.
Alors, avec des chapitres qui ont été peut-être un peu occultés, peut-être maintenant, non?
Non, on n'a juste pas eu le temps après de tout raconter.
Ah non, moi je dis occulté par les gens. Quand vous rappelez.
Non, ça a été. Non, en fait, soit c'était parce qu'il n'y avait pas d'informations là-dessus, soit parce qu'il n'y a pas d'informations dessus. Par exemple, il y a un épisode qu'on n'a pas pu raconter dans le film, mais c'est comment. Parce qu'on n'avait pas de témoin vraiment qui pouvait nous donner les clés. Celui qui aurait pu en donner est mort, c'était Charles Pasqua. C'est comment des stocks d'essence avaient été constitués, en fait, hein, pour être un peu tout autour de Paris, pour être. Des petites qu'on n'a pas pu couvrir parce que les protagonistes n'étaient plus de ce monde, mais comment Charles Pasqua, donc avec le parti gaulliste de l'époque, en fait, on préparait des stocks d'essence, parce qu'en fait, comme on le voit dans le film, il n'y a plus du tout d'essence, donc la France est complètement en panne, donc tout le monde se débrouille pour circuler, et en plus tout est en grève, donc on ne circule plus, en fait. Et comment des stocks avaient été préparés pour qu'ils soient livrés le jour de la manifestation de soutien au général de Gaulle, par exemple. Voilà, ça, on n'a pas pu le raconter, mais faute de témoins, alors... C'est évoqué dans le film très brièvement, mais voilà, ça fait partie des choses.
On comprend quand même qu'il avait le sens de la mise en scène. Et quand il y a cette fameuse fuite à Baden-Baden auprès du général Massu, en filigrane, on comprend que... Après, il a l'air de dire à son petit-fils que non, il ne savait plus quoi faire.
Mais... Oui, mais ça, c'est la première partie. Mais il explique à son petit-fils, en fait, que pourquoi il reste, pourquoi il fait rester une partie de sa famille à Baden. C'est pour les mettre à l'abri. Parce qu'il a eu peur, je pense, vraiment. Et l'autre, et la réponse à pourquoi il avait fait ça, c'est-à-dire pourquoi il était parti, c'était pour... Je pense que c'était, sans le savoir, c'était pour créer un coup politique, en fait. Hein.
C'est-à-dire, créer le vide.
Ouais, c'est créer un coup, en fait, hein, un espèce de truc qui secoue la situation et qui fait que les gens, tout d'un coup, prennent conscience qu'il faut changer, qu'il y a un truc qui ne va pas, et que finalement, ce personnage très monarchique... fallait qu'il revienne pour mettre de l'ordre dans tout ça, en fait.
Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il était très déstabilisé de perdre la main, alors que pour la guerre d'Algérie ou même pendant la Deuxième Guerre, là, il avait toujours récupéré le gouvernail.
Oui, mais comme tous les politiques, je pense qu'il y a des... c'est presque du poker, en fait. C'est-à-dire qu'à des fois, il y a des événements énormes, on n'a pas évidemment les réponses immédiates, évidentes, pour gérer un événement, en fait. Donc, on tâtonne... On essaye des choses, parfois ça échoue, parfois ça marche. Donc il avait, je pense, il était assez âgé quand même, hein, donc 78 ans, hein, donc il a peut-être pas la fraîcheur du réflexe qu'il a eu, je sais pas moi, quand il est parti pour la Grande-Bretagne depuis Bordeaux d'ailleurs, continuer à mener la lutte depuis un pays, et puis incarner cette France qui avait décidé de se battre. Bon, il a mis du temps à comprendre, parce que je pense que la situation lui échappait tellement, il avait tellement pas compris ce qui se passait, que je pense qu'il était désarmé, et puis finalement tout allait bien depuis très longtemps, donc c'est ce qu'il dit au début du film. Il n'y a plus rien d'extraordinaire à faire, mais bon, tout d'un coup tout lui pète, tout lui explose au visage, et il va se réveiller finalement.
Emmanuel Amara, il y a aussi, avec le recul, a posteriori, on voit des futurs présidents. On voit bien sûr Mitterrand qui tente... Mitterrand tente son coup. Et puis, on voit, en fait, Jacques Chirac, et qui est encore là, jeune premier, jeune loup, et qui, bon, avec le recul, on a un autre regard par rapport aux images d'archives que vous avez dénichées.
Oui, c'est-à-dire que... Le problème de l'image politique, c'est qu'elle est, souvent figée dans l'histoire, et elle raconte finalement ce que les livres d'histoire racontent. Mais il y a toujours des histoires à raconter derrière ces images, en fait. Et bon, c'est le cas un petit peu avec Chirac, où on ne sait pas du tout qu'en fait il est pressenti, enfin il est même nommé pour mener des négociations ultra secrètes. Alors dangereuse selon lui oui, et son entourage, puisque voilà, les communistes à l'époque, c'était encore on avait toujours peur, hein, même si en 68, donc il y va avec son pistolet
pour rideau de fer encore, donc,
c'est la guerre froide aussi, bien sûr. Donc oui, tout ça c'est romanesque, mais ça fait partie
du contexte
et surtout ces petites histoires finalement sont assez croustillantes, en fait, remises dans le contexte d'un film qui traite aussi des événements plus sérieux, ça donne un peu de chair.
Et par rapport à ce film, on le rappelle, sur mai 68, est présenté au Festival de Pessac. On sort de la projection, vous avez vu quelques réactions du public, dont quelqu'un qui vous disait que c'était un peu, il y avait de la manipulation en tout cas médiatique à l'époque.
Ah oui oui, bien sûr, mais ça c'est intéressant. Bah voilà, bon, en fait disons que Lyon pour nous ça avait servi de on voulait juste montrer que bah, Lyon et Nantes d'ailleurs, que
les camions de police
ouais voilà, enfin que c'est dans ces deux villes, mais dans d'autres villes aussi, il y en a eu à Marseille, un peu à Toulouse, enfin disons que voilà, c'était très centralisé à Paris, mais que finalement il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées ailleurs aussi. On a tendance à toujours raconter l'histoire de France à travers le prisme de Paris, donc voilà, c'était juste pour sortir un petit peu. Effectivement, il y a eu de la manipulation et parfois même des tentations pour ouvrir le feu carrément sur les manifestants à Nantes.
Et actuellement, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu. Ça bouge beaucoup à Nantes, c'est peut-être karmique, hein. Il y a alors, parfois des.
Alors oui, Nantes, c'est assez. Ils sont assez actifs. Ils ont une. Enfin, alors, je ne sais plus si c'est toujours le cas, parce que c'était une grosse ville ouvrière, en fait. Hein. Et eux avaient commencé déjà depuis bien longtemps à bouger. Enfin, c'est-à-dire depuis 1967, hein. Il y avait des grèves, il y avait des. Non, c'était une ville, un vrai foyer de contestation.
En Bretagne, il y avait des plumistes qui étaient arrivés d'Espagne.
Aussi, hein. Mais ça, je connais moins leur histoire. Hein. Mais oui, à Toulouse aussi, hein. Il y a eu des groupes libertaires assez puissants qui voulaient se battre d'ailleurs contre les sbires de Franco, régler quelques comptes. Tout ça nous éloigne un peu du film, mais en même temps, non, ce sont des révoltes. Hein. Ce sont des révoltes.
On a parfois beaucoup parlé du film. Hein.
Parfois plus confidentielles, mais oui, non, bien sûr. Non.
Parce que j'aimerais parler de votre filmographie. Vous avez fait des documentaires, bien sûr, sur, par exemple, Tulle, le massacre de Tulle, ou alors, là, assez récemment, sur les descendants d'Hitler aux États-Unis. Et ça, c'est assez troublant aussi. Comment est-ce que vous êtes attiré par tel sujet ? Est-ce qu'il y a beaucoup de lectures en amont ? Enfin, comment vous centrez votre intérêt tout d'un coup sur un
sujet ? Alors déjà, j'ai une espèce de... J'aime beaucoup l'histoire, en fait. Donc, sinon, je ne ferais pas ce film. Après, j'ai été dans ma famille très touché par des pages sombres de l'histoire de France. Et ça m'a un peu mis la puce au cerveau. Et c'est comme ça, en fait, que je suis parti... Je suis parti dans ces histoires et effectivement, de temps en temps, je sors de la Seconde Guerre mondiale, mais sinon, je traite beaucoup des sujets de la Seconde Guerre mondiale. Hein, effectivement. Alors, je m'intéresse.
La ligne de démarcation, par exemple.
Voilà, enfin, aux conséquences, voilà, soit de la Seconde Guerre mondiale, sur la France, parce que c'est là où j'habite, mais aussi sur les maîtres de cette époque qui ont fait basculer, on va dire, le monde dans un chaos indescriptible. Voilà, je me suis intéressé aussi au sujet des spoliations juives en France. Voilà, enfin, c'est des sujets dont j'ai hérité dans mon histoire familiale, et que j'ai décidé, puisque c'est l'outil que me permet la télévision et le documentaire, de raconter. Et surtout, c'est un vrai travail sur la mémoire, parce que la mémoire, elle est malheureusement très courte. Et j'essaie d'inscrire ces films en fait dans une durée pour que d'autres générations, de façon tout à fait humble, de ma part en tout cas, puissent accéder à de la connaissance sur cette époque en fait.
Quand vous dites à titre personnel l'histoire, vous avez aussi une formation en histoire ?
Alors j'ai une formation historique en histoire et dans ma famille, voilà, j'ai des gens qui sont partis en déportation. Depuis Bordeaux, depuis Paris, depuis Strasbourg, et voilà. Donc ça m'a toujours à la fois chamboulé et voilà. Et ça m'a donné une espèce de mission que je me suis fixée de transmettre cette mémoire en fait.
Et puis à l'heure actuelle, c'est d'autant plus important puisqu'il y a beaucoup de mouvements de droite, voire d'extrême droite, négationnistes.
Exactement. Et ça, c'est vraiment c'est la réponse, disons, en plus du berger à la bergère. C'est-à-dire que ça justifie d'autant plus, enfin, moi, quand je pense à ce que je fais, voilà, à mon travail, en fait. C'est-à-dire que ces périodes ne sont jamais closes. Ça peut ressurgir d'une manière ou d'une autre. Des espèces d'avatars qui reviennent en Amérique latine, en Europe. Et voilà, et je pense que de secouer l'arbre à mémoire est quelque chose de fondamental, en fait. Hein.
Et là, quand vous mentionnez justement certains pays qui malheureusement ont opté, bon, on voit qu'il y a une grande importance et une puissance, en tout cas au niveau des réseaux sociaux, de l'Église évangélique, hein, par exemple le Brésil ou certains pays d'Amérique centrale.
quand vous dites secouer aussi l'arbre à mémoire, est-ce que vous êtes attiré par d'autres horizons, d'aller voir peut-être, parce que là vous disiez, vous avez une prédilection quand même pour la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, mais j'ai fait une série par exemple sur l'histoire de Cuba.
Hein. Oui.
J'ai travaillé aussi pour une production mexicaine il n'y a pas longtemps. On a fait une série sur l'histoire du populisme, précisément en Amérique latine. Et en fait, bizarrement, c'était avant. Alors évidemment, pour eux, c'était un peu fait de façon consciente, c'est-à-dire qu'il y avait une élection mexicaine qui venait. Mais on a fait l'histoire du populisme au Brésil, l'histoire du populisme en Argentine, l'histoire du populisme au Mexique. Et pour les mêmes raisons, mais dans un contexte différent, on retrouve en fait ce travers de nos sociétés à l'œuvre à nouveau.
Inévitablement, la roue tourne et se répète.
Voilà, c'est-à-dire que pour des raisons parfois similaires, parfois différentes, en fait, on retrouve toujours ces ressorts politiques, ces bizarres attirances parfois des peuples pour les démagogues et ces populistes qui, en fait, n'ont qu'une idée, c'est juste de prendre le pouvoir pour le compte de certains intérêts ou les leurs. Mais voilà, la roue tourne effectivement, mais elle ne s'arrête jamais et elle ne va pas toujours dans le bon sens. Donc voilà, donc l'idée c'est de, en tout cas moi, mon combat dans ce que je fais, c'est d'alimenter la mémoire avec des données pour que les gens soit se remémorent des périodes, soit comprennent comment on en est arrivé là et où on va si on prend cette direction en fait.
Si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez refuser. Mais en tant qu'à la fois avec un regard historien et documentariste, vous avez quelque chose à émettre par rapport à ce qui s'est passé là, au, l'armistice 14-18, à la commémoration, par rapport...
voilà. Si, je peux commenter.
Et puis moi, j'aurais aussi une question par rapport... Vous avez parlé d'une famille qui est partie déportée dans les camps. Est-ce que vous trouvez qu'il était normal que M. Netanyahou soit en première ligne?
Ah non, de toute façon, j'ai trouvé...
Vous avez le droit de ne pas vouloir répondre.
Non, si, j'ai trouvé d'un point de vue historique...
Anachronique.
Alors, certaines commémorations tout à fait justifiées, et d'autres, comme cette espèce de début de salut à Pétain, alors, Israël, oui, bon, j'ai pas très bien compris, ça...
Parce qu'en 14-18, on est d'accord que...
Voilà. Non, l'État d'Israël n'existait absolument pas. Ouais. Après qu'il soit associé à des histoires de grandes guerres, à la limite, pourquoi pas, si c'était une puissance morale et exemplaire, aujourd'hui, je serais le premier à être très heureux de leur participation. Alors, il y a deux options. Soit, pour Pétain, il l'a fait exprès parce que c'était pour allumer un contre-feu. On crée un petit scandale pour camoufler ce qui est en train de se passer par ailleurs. Mmh. Ça fait partie des manœuvres politiques tout à fait envisageables.
Voilà. C'était réussi, en tout cas.
Voilà. En tout cas, provisoirement.
En tout cas, beaucoup d'encre a coulé, beaucoup de micros se sont allumés. Donc ça a fait diversion en tout cas sur d'autres points.
Exactement. Soit c'est de la maladresse, hein, ce qui est tout à fait envisageable aussi, vu comme, en tout cas je vois la façon dont certaines personnes dans ce gouvernement, en tout cas, s'adressent aux Français en fait. Hein. Donc je trouve ça bizarre. Et pareil pour Israël en fait. Soit c'est une idée très généreuse qui est d'associer un État qui est incapable de faire la paix. Avec les habitants de chez lui, et à ce moment-là, 14-18, on va dire, pourrait peut-être être l'exemple de comment on peut faire une paix. Mais bon, c'est quand même très compliqué et pas super adroit. Donc je ne sais pas quoi en penser. Si ce n'est que Pétain, j'ai trouvé ça assez déplorable en fait.
Beaucoup de documentaires donc sur mai 68. Vous avez déjà eu l'occasion de le présenter ailleurs?
Non. Non,
donc
non.
C'est la première fois que vous avez la réaction du public aussi.
Oui, c'est la première fois que j'ai la réaction du public en direct. D'ailleurs, oui, j'ai trouvé assez mutique au début, c'était assez étonnant. Alors je ne sais pas, c'est parce qu'il y a une espèce d'avalanche aussi.
En fait, il faudrait digérer, voilà, c'est ça, il faudrait digérer, il y a beaucoup. Hein.
Voilà, il y a beaucoup de choses.
Même pour ceux qui l'ont vécu.
Mais bien sûr, oui, c'est assez dense. Puis on avance, hein, ça n'arrête pas en fait, donc on se demande même quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'il y a une fin possible. Donc oui, il y en a une. Mais. Donc, ça me fait toujours plaisir. Je l'ai fait dans d'autres festivals. Celui-ci, c'était la première fois. Et pour ce film, c'était la première fois aussi. Donc, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui se déplacent physiquement pour venir voir un documentaire sur cette époque. Alors j'aurais préféré que ce soit aussi des scolaires par exemple, mais bon, ils ont cours la journée, c'est peut-être voilà.
Ils auront des projections.
Et je sais qu'ils ont aussi des projections.
Je crois que vous allez en rencontrer d'ailleurs.
Après vous, vous voulez dire? Oui, ouais, tant mieux.
Et par rapport au rythme assez haletant qui correspond justement aux événements, c'est ce que vous vouliez reproduire. J'imagine que vous aviez beaucoup d'heures de tournage. Vous avez dû faire des choix assez cruciaux.
Oui, enfin, c'est surtout... non, le tournage, oui, on avait pas mal d'interviews. Hein, mais comme elles sont scriptées, en fait, c'est relativement facile de faire des choix. Après, est-ce que ça fonctionne ou pas, c'est surtout là. Et la partie, on va dire, compliquée, c'est de donner vraiment du rythme, donner du rythme à un film, le rendre digeste et comestible, et surtout qu'il vous embarque d'une manière ou d'une autre. Après, on aime ou on n'aime pas, mais qu'en tout cas, vous soyez embarqué dans l'histoire qui est en train de se dérouler.
Alors, Emmanuel Amara, vous mentionnez hors micro, si j'ai le droit de le dire, que votre épouse vient de Suisse.
Oui.
Alors, quand un documentaire sur les camps de travaux forcés en Suisse?
Oui, je ne savais même pas que ça existait.
Voilà, vous ne saviez pas. Alors, il faut demander, il y en a qui ont connu ça. Et malheureusement, ce n'est pas dans les livres officiels.
Mais pourquoi ça n'a jamais été raconté par les Suisses eux-mêmes?
Parce qu'il y avait un monsieur qui était très important dans l'armée suisse,
ouais.
Qui avait fait l'histoire suisse en 3 volumes.
Oui, et qui a oublié cet épisode.
Ah, il a vraiment oublié parce que la guerre en Suisse a 2 paragraphes.
Ah d'accord.
Voilà. Il a oublié...
Pourtant, il y a quelques histoires croustillantes.
Voilà. Il a oublié aussi que les sanatoriums en Suisse allemande, qui étaient fréquentés par la riche clientèle berlinoise juive avant la guerre, comme là, ces braves gens ne pouvaient plus venir, ils étaient dans d'autres endroits beaucoup moins apaisants. Et ils avaient... Enfin, je ne sais pas exactement la teneur du contrat, mais ils avaient un accord avec les officiers nazis qui venaient se reposer dans les sanatoriums.
D'accord.
Et puis les camps de travaux forcés, c'était pour accueillir les gens qui fuyaient la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie.
La France.
Alors la France est encore différente, c'est vers moi celui-là, votre femme peut vous raconter. Malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui ont été refoulés à cette douane.
Oui, je sais, il y a tout un... D'ailleurs, j'ai un bouquin qu'il faudrait que je lise, que je n'ai pas encore lu, sur Annemasse, en fait, cette voilà. Frontière...
Qui n'était pas si facile à passer.
Ah non, visiblement pas, oui, puis qui était même... C'était un saut d'obstacle, en fait.
Vous avez 3 sujets à traiter, là.
Oui, mais à qui je vais les vendre?
Il y a peut-être maintenant des gens qui demandent, comme pour les déshérences, les fonds en déshérence.
Ouais. Bah, non, mais ça pourrait intéresser. Mais c'était assez massif pour à l'échelle du pays, c'est quand on travaille?
Oui, oui, dans le Valais, dans le Chablais.
D'accord. Et ça représentait quoi comme...
Alors, au niveau des gens qui étaient internés là-bas, là, je ne peux pas vous dire les chiffres exacts. Mais justement, je compte sur votre documentaire pour en savoir plus.
D'accord. Voilà. Très bien, je m'y mettrai.
Merci Emmanuel.
Non, on en parlera.
Et bon succès pour ce documentaire très intéressant.
Merci beaucoup à vous.